tronc populaire dans la tradition orale africaine et européenne. L'œuvre d'année du 17e siècle est Charles Perrault, Madame de Aulnois, dans le conte littéraire destiné a priori à un public contemporain. Géant des contes de fées à l'aspect effrayant, se nourrissant de chair humaine selon le petit Robert. L'œuvre est un mangeur mythique, dont les habitudes démesurées et anthropophages marquent siècle après siècle l'imaginaire des grands émotifs. Être surnaturel dont on ne sait trop s'il est de nature humaine, animale ou divine, riche collectionneur d'objets magiques comme les bottes de cette lieu, géant métamorphe, brillant de chair, fraîche, enfantine, l'œuvre selon Arlette ou Blounier possède flair et rapidité, mais est souvent malvoyant et dupe. Il se laisse notamment berner par le petit pousset et le chaboté chez Léon. Mythistorio identifie cinq traits propres au mythe de l'œuvre, soit la mendication, la chair, la faim, l'excès et la victime innocente. La rapproche est figure de l'œuvre chasseur, boucher ou bourreau, ainsi que des monstres anthropophages issus de la mythologie grecque, les titans géants, les cyclopes ou minotaures. Selon Boulogne, différents personnages imaginaires se présentent ailleurs comme des avatars de l'œuvre. Le diable en style divin religieux, le loup introduit pour sa férocité en Europe et comme l'œuvre associée à la forêt, à la solitude et à la faim, pensant son incarnation à un petit chef rouge. La sorcière, dans le conte des frères Grimm, Jeannot et Margot, s'avère aussi progressive. Dans les contes merveilleux, le conte de Grèce est en deux hypothèses ou la progéniture de l'œuvre, comme dans le petit E, comme dans le petit pousset de Perrault. Tantôt un être doté d'une prédilection pour la chair, ainsi la sorcière dans Jeannot et Margot, la belle-mère dans la tête du bois dormant de Perrault. La barbe bleue, hôte inquiétant qui assassine ses époux indiscrets et conserve leur corps ensanglanté, dans le monde des poignées, peut également être considéré comme le talent de l'œuvre. Dans son ouvrage The Ogre's Progress, Jonathan Crell note que la fiction francophone met en scène depuis 1870, notamment avec l'apparition du roi des ombres de Michel Tournier et de l'œuvre du Suisse Jacques Chétex, la renaissance de l'œuvre, désormais perçue comme une métaphore de l'acte de dévoration sous ses différentes formes. Patrick Bergeron, à la suite de Crell, note un changement dans la fonction de la partie du monstre depuis quelques décennies. Si l'œuvre anthropophage des contes traditionnels du 17e siècle effrayait les enfants, ces derniers s'identifiaient des protagonistes en tant que toujours vainqueurs de leur fondement avec l'œuvre, qu'ils réussissaient souvent à berner et à tuer. L'œuvre contemporaine, plus souvent triomphant en vertu d'une inversion maligne du mythe, participe selon Bergeron à la fascination contemporaine pour les figures criminelles sadiques, ou le cannibale, dont ce film nous a donné un exemple. On comprendrait que les œuvres, qui sont plus les apanages des textes destinés aux enfants, plaisent plus jamais plus qu'avertis, parfois avec du genre de l'horreur. Tout l'auteur contemporain, hormis peut-être Pierre Cloutier et Pascal Brunard, imagine des œuvres pour mangeurs d'enfants. Brigitte Lejoie rappelle à la suite de Pierre Alboumi que, je cite, le mythe littéraire est un personnage élevé d'une tradition orale littéraire que divers auteurs traitent et modifient librement et pour lesquels à chaque reprise s'ajoute nécessairement des significations nouvelles. D'après Arlette Boulogne, les occurrences contemporaines du mythe de l'œuvre dénotent son champ premier d'application, à savoir la sphère alimentaire. S'immisçant dans le domaine du cannibalisme imaginaire, il incarne tour à tour sur un même hyperbolique, la mangerie, le père restaurateur, la mère possédée, à l'origine des expériences de fusion-confusion que sont la pédophilie et l'inceste. Il peut encore le bien dans le contexte de la montée des idéologies totalitaires, l'avatar du dictateur moderne. Pour Crell, la renaissance de l'œuvre à la fin du XXe siècle s'inscrit dans un contexte où la France avait pour la première fois sa participation volontaire à la Shoah et sa triste tradition de violence envers les femmes et les enfants. Les figures de l'œuvre politique et de l'œuvre sexuelle qui ont la position littéraire subséquente, c'est une conséquence de ce culte de la mémoire. Figures complexes et ambivalentes, les œuvres métaphoriques, qu'ils soient personnages ou idées, sont omniprésents, selon le chercheur, signifiant des violences dirigées vers l'autre ou retournées contre soi, y compris armées ou massacres génocidaires, en passant par la maltraitance infantile ou les troubles alimentaires. L'œuvre est une figure particulièrement évocatrice qui avait témoigné du caractère duel de l'homme et incarne à la fois le monstre en soi et le monstre au-delà de lui. Si plusieurs écrivains reconnus mettent en scène les œuvres, consensuellement à Pascal Bruckner, Daniel Pénard ou Samuel Boutancy, la littérature contemporaine au féminin est investie également cette figure, en se donnant parfois à une subversion du monde. À l'issue d'une exploration de corpus qui demeure, je l'ai vu, encore fragmentaire, j'ai l'impression que les textes écrits par les écrivains sont le plus souvent en scène, mais pas exclusivement, les incarnations de cette œuvre sexuelle dans les crèves, à la fois séducteurs et agresseurs, chez qui les appétits alimentaires se confondent aux appétits des jugements incarnent diverses facettes d'une violence exercée contre les femmes et les enfants, souvent à travers la sphère domestique. Ainsi, un mangeur de Michel, le même interphage, avec une curieuse condition génétique, avale d'une bouchée sa fille unique alors qu'elle attend la visite d'un prétendant qui menace la pérennité de leur union incestuelle. Époux, et père tyrannique dans le cercle vert dans le temps de vie, le docteur Dieu agonisant d'un cancer dans sa maison de Maurice, se remet les amis à lui infliger à sa défunte épouse la marmite de riz brûlant qu'il renverse sur sa tête et la lunette qu'il jette sur un pan de son cercle. D'après Crève, alors que Cronos est le prototype mythologique de l'homme, le grain descendait plutôt d'Aphrodite, ainsi le ramenant dans le début de Muriel's père. Plus belle que belle, qui garde à la fois la victime des abus sexuels et le reste des abus assassinants. Pour Patrick Bergeron, le tableau ici, la marchande d'enfants de Gabriel Whitcock, ainsi que le récit L'Ogresse de Dina Psyché, revisite pour leur part la figure de l'ogresse sexuelle, amorale et ambiguë, en utilisant une approche de l'abjection. La Marguerite Paradis de Whitcock, tenancière d'une maison de course pour libertaire où elle abuse des enfants perdus du Paris du 18e siècle, explique crûment sa correspondance à son ami Louise qui envisage le même outil, les outils qu'elle rencontre. Le récit d'écrivant résout un scénario d'agression des deux filles. Toujours selon Bergeron, le grand cannibale surconnu de Dina Psyché, auteur qui décroise d'origine martiniquaise, a pour savoir éviter de l'agriculture, ce don et maître qui lui permet d'expérimenter, et je cite, une forme singulière d'extase qui naît de la conjonction de l'humain dans son sexe et dans sa bouche. Cannibalisme, meurtre, nécrophilie, inceste, infanticagie, autophagie, voilà autant de thèmes abordés par le roman Psyché. Ainsi, objet ogresse dans la littérature contemporaine des femmes appartient parfois à des cellules familiales dysfonctionnelles, abusent de leur pouvoir sur l'autre plus faible et assouvissent leurs habitudes alimentaires, sexuelles, avec fureur, violence et délectation. Je propose en tout cas présent une seconde analyse plus proche des textes en attendant la position de l'écrivaine belge Annie Lefond, que j'ai cité dans ma thèse à partir d'un autre angle d'approche et qui l'ont fait nous avoir mis. Si les récits notamiques ne font pas explicitement référence au mythe de l'œuvre, ils proposent tout de même des variations significatives de l'œuvre sexuelle en magie. Le cycle autobiographique d'Annie Lefond met en scène le sujet atteint d'une problématique de l'incorporation dont le corps sud peut être rempli vidé, on l'a vu tout à l'heure. La narratrice qui détend dans Biographie de la fin et la fin c'est moi, prépare durant l'enfance une surfaim qui a pour objet les friandises, l'eau, l'alcool, les paysages grandioses et l'affection d'objets d'amour féminin. Celle-ci l'esprit progressivement cache chez les personnages une inhibition de la zone horaire, qui se traduit à l'adolescence par des privations anorexiques et en but de freiner la liberté, qui marque pour les petites filles la chute hors du paradis. Il signale le deuil d'un corps laissé maîtrisé, auparavant perçu comme parfait. C'est dans un univers narratif traversé par divers fantasmes anorexiques, présents à la fois dans le roman de l'émarie et dans les fictions, qui sont la scène chez Annie, notamment cette thématique de la dévoration qui nous rapproche de l'œuvre. L'écrivaine met en scène dans sa production plusieurs protagonistes proverbes, le plus souvent des hommes cruels et ou amoureux ayant des pratiques alimentaires familières, à nouveau le terme encore. Notamment celui qui se donnait à l'éthique, rappelle-toi le sumo, ce lutteur japonais qui forme le demi-dieu, qu'elle a côtoyé durant son enfance nibonne et beaucoup près de son père diplomate. L'écrivaine déclare en entrevue que l'obèse incarne dans une ménagère en aide diabolique, condamnée par la bombarde de nourriture qu'il a mangée, et qui a longtemps été pour elle associée au mal. La cruauté de l'œuvre anatomienne, notamment mise en lumière dans un super tremblement où M. Omochi, l'obèse vice-président d'entreprise nibonne Minimoto, force à la narratrice personnage ennemi à manger du cheval à verre lorsqu'elle vient lui présenter cette émission au terme de son contrat, voir la citation à l'écran. Il commet ce qu'elle présente comme un viol verbal sur la jeune demoiselle Maury qui l'injurie publiquement dans une agression qui se confond oralité et génitalité. Par 1995, le roman Inquiétinaire, gravé autour de Juliette et Émile, en cours de retraité comme on l'a tout à l'heure aussi, vous allez voir Fantine comme ménage dans la maison de Thérèse, en retrait du village de Maud, dans l'espoir de vivre une solitude à deux en communion avec la nature. Disons pour ce voisin qui est présent à l'internat, qui loge avec son épouse interne Bernadette à quelques centaines de mètres de leur maison. Tous les jours de 16h à 18h, Palinette rend à Émile et Juliette une visite incommodante, s'asseyant dans un fauteuil en silence et se montrant agacé lorsque le couple essaie de savoir davantage sur eux. Au contact du taciturne et envahissant Palinette, l'irritation d'Émile croît, quelque chose que brise dans l'ancien professeur d'une patiente, Tandis que bien qu'ils décident d'en finir avec l'important, qu'ils perçoivent comme un tortionnaire, incapable de plaisir, et ne vivant que pour lâcher celui des autres, à commencer par sa femme, qui garde enfermée et prive des douceurs sucrées dont elle raffole. Bernadette Bernadin est pour sa part décrite comme un kyste, un énorme organe digestif, une créature féminine à la limite de l'humain. Inoffensif malgré son physique ingrat, elle est, contrairement à son époux, d'humeur joyeuse et capable d'un plaisir quasi sexuel lorsqu'elle avale de la soupe au chocolat. Le grain dans le quatrième, demandait de trouver la jouissance et la destruction. Après les sept à la même, le couple adopte en quelque sorte Bernadette qui devient pour Juliette un enfant de remplacement, en ne comprenant pas qu'il a tout simplement. Émile demeure jamais changé par son corps à corps funeste avec l'envahisseur qui demeure secret d'ailleurs, et que quelqu'un pourrait voir comme un avatar de l'autre. L'édition de l'Église met par ailleurs en scène des hommes amoureux qui absorbent l'être aimé pour le posséder, dans le cadre de cannibalisme métaphorique. Dans cet esprit, Lorraine Manieux signale que pour les héros de l'Église, l'acte de tuer se confond avec l'acte d'aimer. L'absorption est une identification avec l'autre, concernée ici, à l'intérieur de soi. Je vais sauter l'extrait comme on a pu le temps. Je vais rapporter quelques mots, un extrait de l'Église qui parle un peu de sa démarche et des personnages qui s'adonnent à l'absorption de l'autre en soi. Alors, Crène rapporte que pour Pascal Brouillard, l'homme le plus souvent est celui qui étouffe l'être cher par excès d'amour. Ici, la psychanalyste Christiane Bollivier qui déclare à cet égard que cette passion dévorante peut résulter de l'incapacité d'un parent ou d'un amant à reconnaître l'identité distincte des êtres. Le graspire a une relation synthétique avec l'autre. Il cherche un retour à l'état d'indifférenciation primaire vécu à l'intérieur en public. Et ce, peu importe le prix à payer pour l'objet d'amour. Dans la création des dignotons à travers la psychanalyse, Marco Kobialka relève dans son esprit la présence de plusieurs cellules autosuffisantes de jumeaux dans le bois notonien. La chercheure explique que les couples notoniens, souvent placés sous le signe de la génialité, vivent une fusion avec l'autre soi-même dans un jardin idyllique. Toutefois, les jumeaux sont souvent séparés par un impu, par la puberté, par la mort, par exemple, ce qui génère chez eux un sentiment d'inconvénience. Kobialka rapporte que le jumeau délesté, souvent un homme, essaie de plus de retrouver son couple féminin perdu, alors jusqu'à l'emprisonner, l'assassiner ou se suicider pour obtenir le monde. Dans l'hygiène de l'assassin, premier roman publié par Noton, il remarque que Génard pour l'exploitage, prix Nobel de littérature et atteint un cancer des cartilages n'a plus que deux mois à l'heure. Les journalistes se mettent à son sujet, à son chevet, mais sont tous défaits et nauséeux de leur entretien avec le tyran indiqueux qu'ils écrivent comme le messie de l'obésité. Le priori prétexteur prend plaisir à déposer ses interlocuteurs en utilisant son corps malgré son handicap. Par son simple regard, je sens qu'il me digérait, qu'il me dissolvait dans l'issue de son organisme totalitaire, dit un journaliste. Mais aussi et surtout par ses propos assez humbles. Prétexteur conduit ici avec joie un journaliste au bord du vomissement, lui détaillant ses troubles alimentaires grâce à ses carnets, en témoigne avec l'extrait cité à l'écran, dont auquel des références sont déclarées. Entre enfin en scène la journaliste éminente, maîtrise perspicace, qui entraîne Prétexteur dans une joute verbale, à l'issue de laquelle l'écrivain avoue l'assassinat de sa cousine Léopoldine, qui l'a jadis commis, et qui l'évoque dans un unique roman aussi inachevé. Notons qu'après cet assassinat de Léopoldine, près du lac adjacent au château familial, le jour de ses premières règles, Prétexteur, de jeune homme divin, devient un obèse misanthrope, hanté par le souvenir de sa cousine, qui l'a cannibalisé symboliquement au moment où il a étranglé pour la sauver des vêtements. Prétexta déclare finalement son amour à Nina. Il convainc qu'elle présente désormais, qu'elle peut constituer désormais son avatar et lui demande de l'étrangler. Crène signale à cet égard que dans plusieurs histoires d'ogre, la victime expérimente un volte-face et devient elle-même ogre en colère. Au début du roman Barbe Bleue, publié en 2012, par Noton, cette journée puissante, jeune professeur à l'école du Louvre, et pour une richante annonce de colocation, et en ménage avec l'aristocrate espagnol Don Emilio Oliver et Militar, malgré le mystère entourant la disparition de ses 8 colocataires de ce monde. Logée dans des appartements luxueux, elle se voit interdire l'accès à la chambre noire du photographe en même. C'est autour de repas partagés que cette journée et Don Emilio font connaissance. Lorsque cette journée n'approuve la combinaison chromatique des yeux serrés dans les bols dorés, l'aristocrate Militar y découvre son amour. Il boit régulièrement du champagne, écrit comme de l'or liquide, mais il partage également les plats qu'il lui donne de l'émérite. Cet honoré, Omar, Caviar, Verzuela, un des importants, cet assassin cuisinait à merveille, déclare cette journée. Adèle Couturier, qui a vu les couleurs, donne l'émérite confectionne pour la jeune femme une jupe d'Orpérignon à la double jaune, un habit pour le corps et pour l'âme, qui gagne la vieillesse cette journée. On Adeline, et on ajouta la femme de l'épuisement coréenne à son autre genou après avoir franchi le seuil de la chambre noire. Les dernières de la pièce aussitôt croisées par le dispositif chirurgique. Tommy Numerio affirme avoir aimé ses femmes avec tout ce qu'il est, y compris le despot. La chambre noire est devenue ainsi, où il expose les portraits de chacune des défunts qu'arborant dans la mort aux vêtements colorés fabriqués pour elle. Cette tournée n'impose alors une séance de photos d'elle bien vivante avec la jupe de l'union et du champagne. Lorsque Don Emilio l'invite enfin dans la chambre noire, cette tournée s'oppose à ce qu'on accroche son portrait dans ce frigo de boucherie. Il y enferme aussitôt l'homme qui refuse d'accéder à sa demande. Cette tournée invite son ami Corinne à boire champagne avec elle sur un banc de parc toute la nuit. Quand Don Emilio décède frigorifié, cette tournée se change en or. En or, couleur solaire, caractérise, pardon, qui contraste avec la teinte bleutée de la dépouille jolie. The Bluebeard's Egg de Margaret Atwood à la Yavé de Luisa Valenzuela, en passant par les portes closes de Loris Saint-Martin et les stands de Louis-Lenny. Un nombre croisant d'écrivains d'époque depuis les années 70 dans leur production la figure de Barbelou. La fois avatar de l'origine littéraire et courant, ce personnage fictif, introduit par Charles Perrault, s'est inspiré au dire de certains par une figure historique dont Gilles Lorrain, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, où le roi anglais en vit vite. Je vous ai ici les propos que Thierry Gilles le jouait dans son intéressant article à l'écriture des mythes comme lieu de passage, l'exemple de Barbelou. Cette ère de bleuté, rappelant la berbiche de Lucifer ou évoquant une vision stéréotypée de l'étranger oriental, a souvent été interprétée comme la vue d'une sexualité masculine exacerbée ou perverse. Par leur écriture, les écrivains insèrent parfois des éléments inédits actuels ou évoquent des contes apparentés, ainsi sur des frères Grimm, des mille et une nuits ou encore du Marquis de Sade. Toujours selon le geste, la reconstruction du mythe s'appuie sur divers commandages de mythes. Parfois, Barbelou est hébergé. Il arrive qu'il disparaisse au profit de sa victime, jamais nommée dans le conte original. Dans la nouvelle A Room of His Own de Sumiti Nakjoshi, qui dénonce implicitement les textes dont celui notamment montrant la protagoniste comme fautive puisqu'elle n'a pas respecté le désir d'intimité de son mari. C'est la non-curiosité de la femme qui lui est fatale. D'autres auteurs témoignent le recueil collectif de Brian Bluebeard's Wives, commentant plutôt le droit des femmes à un espace qui leur soit propre. Pour le geste, les réécritures féminines du conte de Barbelou questionnent souvent les conditionnements sociaux ou moraux et les mauvais traitements dont les femmes font l'objet. Je permets en conclusion que la figure de l'œuvre, mythe littéraire, qui porte encore la trace des contes de Perrault dont il est issu, fait l'objet d'une renaissance dans la littérature francophone et épidécémique. Métaphore de l'acte de dévoration sur les différents formes, le peuple contemporain s'inscrit dans le champ du capitalisme imaginaire. Il évoque différentes formes de violence, qu'elles soient alimentaires, politiques, familiales ou sexuelles. Les récits contemporains de femmes mettent à mon sens en scène une majorité d'homosexuels qui s'exprime le plus souvent à l'intérieur de cellules familiales où ils jouent le rôle de père incestuel, d'amant sadique ou d'écoutumanie, qui s'adonnent parfois malgré eux à des dévorations amoureuses, réelles ou fantasmatiques, visant à garder l'autre monstre. Le reste, végétarien ou cannibale, est de ce jour encore moins présent dans les textes. Et apparaît pour sa part comme une force séductrice, une maquille cruelle ou un être affamé d'une force.